Vous écoutez, on lit pour vous.
Profil statistique des personnes handicapées. Un texte de la rédaction paru le 26 septembre 2024 sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ. Avoir un portrait juste de la situation des personnes handicapées au Québec aide à orienter les actions à poser pour améliorer leur participation sociale. Les statistiques révèlent à la fois les progrès réalisés et les défis à relever. Profil général de la population des personnes handicapées. Au Québec, les personnes avec incapacité de 15 ans et plus présentent un profil socio-démographique et économique moins favorable que celui des personnes sans incapacité. En effet, les personnes avec incapacité sont, en proportion, plus nombreuses que celles sans incapacité à vivre seules, à ne pas avoir de diplôme d'études secondaires et à être sans emploi. Elles appartiennent aussi plus souvent à un ménage vivant sous le seuil de faibles revenus. Ce profil est généralement encore moins favorable pour les personnes ayant une incapacité très grave que pour celles ayant une incapacité légère. Taux d'incapacité. En 2022, 21% des Québécoises et Québécois de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ont une incapacité. Cette proportion représente environ 1 422 020 personnes. Parmi cette population, le taux d'incapacité est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, 23,6% contre 18,2%. Les incapacités les plus répandues parmi la population de 15 ans et plus au Québec en 2022 sont celles liées à la douleur, par exemple des personnes ayant des douleurs chroniques ou occasionnelles qui limitent les activités quotidiennes, à la flexibilité, par exemple des personnes ayant de la difficulté à se pencher ou à tendre les bras limitant ainsi les activités quotidiennes, à la mobilité, par exemple, des personnes ayant des difficultés à se déplacer, soit à marcher sur un terrain plat pendant 15 minutes sans se reposer, soit monter ou descendre un escalier. Taux d'incapacité par type d'incapacité. L'enquête canadienne sur l'incapacité, ECI, de 2022 de Statistique Canada permet de connaître le nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité au Québec. Les personnes avec incapacité visées par cette enquête ont été identifiées par la présence d'une difficulté ou d'un problème causé par une condition ou un problème de santé à long terme. Ces personnes sont également limitées dans leurs activités. Cette population correspond donc à la définition de personnes handicapées. Les personnes qui répondent à cette définition ont une incapacité significative et persistante et rencontrent des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Les données suivantes font état du taux et de la population estimée selon le type d'incapacité. À noter qu'une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les titres des colonnes ne seront mentionnés que pour la première donnée. Type d'incapacité, vision. Taux dans la population, 4,7%. Population estimée, 319 480. Les autres données concernent l'audition, 3,3%, 223 270 personnes. La mobilité, 7,4%, 502 940 personnes. La flexibilité, 7,6%, 514 610 personnes. La dextérité, 3,1%, 208 120 personnes. La douleur, 12,7%, 862 570 personnes. L'apprentissage, 4,5%, 308 010 personnes. Le développement, 1,3%, 85 060 personnes. La santé mentale, 6,7%, 453 970 personnes. La mémoire, 2,9%, 199 240 personnes. Incapacité indéterminée, 0,6%, 41 880 personnes. Sécurité alimentaire. En 2020-2021, 10% des personnes avec incapacité de 12 ans et plus font partie d'un ménage vivant de l'insécurité alimentaire, ce qui représente environ 330 900 personnes. En comparaison, 6% des personnes sans incapacité sont dans cette situation. Parmi les personnes avec incapacité, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à faire partie d'un ménage vivant de l'insécurité alimentaire. 12% chez les femmes, 8% chez les hommes. État de santé. Les personnes avec incapacité de 12 ans et plus sont proportionnellement moins nombreuses à percevoir leur santé comme bonne, très bonne ou excellente. En 2020-2021, cela représente 91% des personnes avec incapacité, 97% des personnes sans incapacité. Les personnes avec incapacité sont également proportionnellement moins nombreuses à percevoir leur santé mentale comme bonne, très bonne ou excellente. 89% des personnes avec incapacité, 96% des personnes sans incapacité. Niveau de scolarité. Un peu plus de la moitié, 53% des élèves handicapés obtiennent un diplôme ou une qualification 7 ans après leur entrée au secondaire, en 2022. Chez les élèves réguliers, ce taux est plutôt de 89%. Services de garde à la petite enfance et en milieu scolaire. Un nombre moyen de 243 704 enfants de moins de 5 ans ont fréquenté un service de garde en 2022-2023. Un total de 13 705 étaient des enfants handicapés. Il s'agit d'une proportion de 6 %. Les enfants handicapés de moins de 5 ans fréquentent en plus grande proportion les centres de la petite enfance, CPE. Ils sont moins nombreux dans les garderies subventionnées et les milieux familiaux. Éducation. Il y avait 56 214 élèves handicapés au Québec en 2022-2023. Il s'agit d'une proportion de 4,9% des 1 137 262 élèves du préscolaire, primaire et secondaire à la formation générale des jeunes. Parmi les élèves handicapés, 45% fréquentent une classe ordinaire, 42% fréquentent une classe spéciale, 10% fréquentent une école spécialisée, 3,1% fréquentent un autre type d'établissement, par exemple un centre hospitalier. Emploi. Parmi les personnes de 25 à 64 ans avec incapacité au Québec en 2022, 67% occupent un emploi comparativement à 80% des personnes sans incapacité. Les personnes avec incapacité en emploi représentent environ 548 560 personnes. Le portrait diffère selon la gravité de l'incapacité. 78% des personnes ayant une incapacité moins grave sont en emploi. 43% des personnes ayant une incapacité plus grave sont en emploi. Loisirs. En 2020-2021, la proportion de personnes de 12 ans et plus avec et sans incapacité qui sont actives physiquement durant les loisirs est similaire. 60% des personnes avec incapacité, 61% des personnes sans incapacité. Ces personnes ont fait du sport, du conditionnement physique ou des activités physiques de loisirs, organisées ou non organisées. Ces activités ont duré au moins 10 minutes en continu au cours des 7 derniers jours. Il n'y a pas non plus de différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes avec incapacité à cet égard. 61% chez les femmes, 59% chez les hommes. Coordonnées. Si vous avez des questions sur les statistiques à propos des personnes handicapées, communiquer avec l'Office des personnes handicapées du Québec à l'adresse courriel suivante evaluation@ophq.gouv.qc.ca ophq.gouv.qc.ca. C'était Profil statistique des personnes handicapées, un texte de la rédaction paru le 26 septembre 2024 sur le site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ.
Plus d'écoute qu'avant de la part des policiers, un texte de témoignage de l'itinéraire paru le 3 mai 2025 dans la presse. Lynn Champagne, Camelot, PJC, Promenade Ontario, Cuvilliers. Récemment, j'ai constaté un changement. Deux policiers ont tenté de me trouver un refuge, mais tout était plein. Ils m'ont offert un café et m'ont conseillé d'attendre l'ouverture d'un centre. Contrairement au passé, ils m'ont traité avec respect. La police collabore davantage avec les travailleurs de rue. Une femme enceinte en détresse a pu être escortée vers un hébergement grâce à cette coopération. L'unité EMIS, dédiée aux crises, montre une volonté d'améliorer la situation des sans-abri. La violence reste omniprésente. Dans la rue, c'est la loi du plus fort. J'ai failli être poussée sous un métro pour un simple banc. Survivre, c'est se battre chaque jour. Mais aujourd'hui, les choses changent lentement. Certains policiers font preuve d'humanité. Il y a 25 ans, une telle évolution aurait évité bien des drames. Moins d'adolescents se seraient retrouvés à vendre leur corps. Ce n'est pas encore parfait, mais voir plus d'écoute et d'entraide redonne un peu d'espoir. Joseph Clermont-Mathurin, Camelot, épicerie métro Sainte-Catherine-Est, Dorion. Je pense à ceux qui essaient de voler l'identité des autres en piratant les cellulaires ou les ordinateurs personnels au détriment de gens vulnérables et pour leur propre profit. Faites attention. Avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus reconnaître nos proches et nos amis. Ce sont surtout les personnes âgées qui se font frauder, manipuler et escroquer par toutes sortes de techniques qui finissent par aboutir à des gains pour les fraudeurs et à des pertes financières et morales pour les victimes. Ces dernières finissent par craindre n'importe quel événement, deviennent méfiantes et traumatisées. Cela peut même créer de la discorde et de la crainte dans les familles. C'est dur de prouver que l'appel ne vient pas d'un membre de la famille, mais bien d'un fraudeur. Ça peut même amener n'importe qui à la dépression. Sur mon téléphone et sur mon ordinateur, je reçois des virus et des publicités trompeuses. N'embarquez pas dans ce jeu-là. Cela peut coûter très cher. Je vous conseille d'éteindre votre ordinateur ou votre téléphone lorsque vous recevez des messages bizarres qui n'ont aucun rapport avec vous ou votre vie. Faites attention aussi aux réseaux sociaux. Les fausses nouvelles et les complotistes envahissent nos réseaux. Il y a bien de la cochonnerie là-dessus. Revenez dans la réalité. Donnez une pause à vos écrans. Remettez votre cerveau en route. Faites votre vie les deux pieds sur terre. Jean-Claude Nau, Camelot, Métro Champ de Mars et Verdun. Le rôle du mentor. Pour être mentor à l'itinéraire, j'ai d'abord passé une entrevue de sélection. Il fallait que j'explique devant plusieurs personnes pourquoi je voulais ce poste. Je leur ai dit que je voulais montrer au nouveau Camelot comment vendre le magazine. En 2019, on m'a offert de donner une formation à un Camelot qui commençait. Une fois par semaine, je l'accompagnais sur son spot de vente, devant le Provigo, près du métro La Salle. Je lui expliquais comment entrer en relation avec la clientèle pour effectuer de bonnes ventes. J'étais à côté de lui pendant ce temps-là. Je lui montrais, par exemple, comment tenir le magazine pour qu'il soit bien visible. Je faisais une démonstration devant lui pour le lui expliquer. Je lui disais qu'après, il saurait comment faire lui-même et trouver sa propre manière de vendre. Notre relation se passait très bien. Il était à l'écoute et ponctuel. Il paraissait bien, était gentil, souriant et respectueux. Quand il ne vendait pas assez, il restait patient. Moi aussi, j'étais à l'écoute, compréhensif et encourageant. Aujourd'hui, il vend parfois à la station Bonaventure. Je suis fière de l'avoir aidé dans ses débuts. C'était, plus d'écoute qu'avant de la part des policiers, un texte de témoignage de l'itinéraire paru le 3 mai 2025 dans la presse.
Briser le tabou de la sexualité des femmes aînées. Un texte de Marie-Hélène Dufay-Marinescu, paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir. Les préjugés entourant la sexualité des femmes aînées persistent, au point que celles-ci sont parfois perçues comme des êtres asexuels. Un projet issu des milieux communautaires et de la recherche a vu le jour afin de changer la donne et d'identifier leurs besoins sur le plan de la sexualité. La sexualité des femmes aînées reste souvent cantonnée au domaine de l'invisible. Afin de contrer les préjugés à l'origine du tabou que représente leur sexualité, Isabelle Wallach, anthropologue et professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, a développé un projet de recherche Action en partenariat avec des organismes communautaires de femmes et le regroupement LAIR des Centres de femmes du Québec. Le projet, intitulé « La sexualité des femmes aînées, des besoins aux pratiques d'intervention », vise à identifier et à mieux connaître leurs besoins en matière de sexualité. Entre âgisme et sexisme, la société imagine mal que les aînés puissent encore être intéressés par la sexualité, car elle est associée à la reproduction et à la jeunesse, explique la chercheuse. Les femmes aînées perdent leur fonction reproductive après la ménopause, ce qui renforce encore cette idée préconçue. Elle ajoute que les standards sociaux de beauté véhiculent aussi des préjugés selon lesquels un corps parfait est nécessaire pour être désirable et qu'il n'y aurait donc pas d'intérêt à poursuivre des activités sexuelles avec l'âge. Les femmes souffrent davantage que les hommes de ne pas correspondre à ces normes de beauté, car leur vieillissement est socialement moins bien accepté. La vision normative de l'expression des pratiques sexuelles accentue également ces préjugés, souligne encore Mme Wallach. La chercheuse insiste à cet égard sur la grande diversité des expériences, qu'elles soient hétérosexuelles ou issues de la diversité sexuelle. La sexualité des personnes aînées peut être différente, notamment en raison des changements physiologiques et d'éventuelles limitations physiques qui peuvent survenir, rappelle-t-elle. La professeure ajoute que considérer les femmes aînées comme étant inactives sexuellement peut nuire à leur santé. Cela ne permet pas de discuter des violences sexuelles ou des problématiques en lien avec la santé sexuelle, tels que les risques d'infections transmissibles sexuellement et par le sang, ITSS. Face à ce tabou, certaines femmes aînées conservant un intérêt pour la sexualité risquent d'intérioriser des préjugés âgistes et d'éprouver des sentiments négatifs comme la honte ou la culpabilité. Pourtant, comme le rappelle la chercheuse, tout le monde a droit à une sexualité. Créer un espace d'expression. En collectant des données par le moyen d'entrevues et d'activités, la recherche Action vise à identifier les besoins des femmes aînées sur le plan de la sexualité et à répertorier les pratiques d'intervention déjà existantes. Ce faisant, le projet ambitionne de contribuer à déconstruire ces préjugés et, selon son évolution, d'élaborer un guide d'animation qui pourra être utilisée par les centres de femmes comme approche d'intervention, rapporte Isabelle Wallach. La chercheuse souhaite que les résultats du projet puissent aiguiller les décideurs politiques, peut-on lire sur le site de l'UQAM. Parmi les activités mises sur pied dans le cadre de la recherche et auxquelles un groupe de femmes hétérosexuelles et un groupe de femmes lesbiennes ont participé, la méthode dite « photovoix » s'est avérée particulièrement pertinente dans la déconstruction des préjugés. Cette méthode de collecte de données consiste à prendre des photographies pour documenter le vécu des participantes sur des thématiques entourant la sexualité. En plus de leur conférer du pouvoir à l'égard de leur sexualité, cette méthode participative a permis de redonner une voix aux femmes aînées à travers l'image. Ce partage a créé un espace qui n'existe pas dans la société pour parler librement de sexualité, ce qui a été libérateur, affirme Mme Wallach. Dorette Mekamjio est directrice du Centre des femmes de Montréal-Est Pointe-aux-Trembles, centre partenaire du projet au sein duquel s'est déroulée l'activité. Les femmes aînées qui viennent pour briser l'isolement constituent la majeure partie de sa clientèle de jour et n'abordent habituellement pas les questions inhérentes à la sexualité. Dans la société, elles sont livrées à elles-mêmes, malgré le besoin et le désir d'en parler, ce qui nuit à leur épanouissement, rapporte la directrice. Elle espère que la collaboration de l'organisme avec Isabelle Wallach rendra à ces femmes un sentiment de confiance et de liberté. Plaisir sexuel chez les adolescents, des inégalités entre garçons et filles. Chez les adolescents, les filles cisgenres, personnes dont l'identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance, ont significativement moins de chances d'atteindre l'orgasme que les garçons cisgenres, que ce soit avec un partenaire ou par la masturbation. C'est ce qu'indique une nouvelle étude, première du genre, publiée dans la revue Archive of Sexual Behavior, menée sur 2800 jeunes Québécois par Alice Giroire dans le cadre de son doctorat en psychologie à l'Université de Montréal. Les filles auraient presque deux fois moins de chances que les garçons d'atteindre l'orgasme par la masturbation. Ce résultat, qu'on ne retrouve qu'à l'adolescence, signifie qu'elles ne connaissent pas leur anatomie et que le tabou de la masturbation pourrait susciter un sentiment de honte, explique Mme Giroire. Le décalage entre le plaisir des garçons et celui des filles s'explique en partie, sur le plan psychosocial, parce que la recherche appelle les scripts sexuels traditionnels, soit une représentation de la sexualité selon laquelle les femmes et les filles ont un rôle de gardienne de la sexualité. Ces scripts laissent entendre également que la pénétration vaginale revêt une importance primordiale et que l'orgasme des garçons cisgenres signale la fin du rapport sexuel. C'est la raison pour laquelle Alice Giroire appelle à une éducation sexuelle plus inclusive, adaptée à la diversité des expériences adolescentes et positive. C'était « Briser le tabou de la sexualité des femmes aînées », un texte de Marie-Hélène Dufay-Marinescu, paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir.
Les couchers de soleil, un remède naturel. Un texte commandité, paru le 12 mai 2025 dans La Presse. Que ressentez-vous quand vous regardez la myriade de couleurs qui émanent d'un coucher de soleil? De la paix? Du bonheur? De la sérénité? Selon plusieurs chercheurs, les événements éphémères, comme le crépuscule, génère des émotions positives chez la plupart des gens. Observer l'astre du jour alors qu'il s'apprête à visiter l'autre moitié du globe serait donc réellement bon pour la santé mentale. Lumière sur les bénéfices de cette activité toute simple. Effet fédérateur. Les phénomènes naturels éphémères fascinent les humains. C'est pourquoi de nombreux chercheurs ont étudié leurs effets sur les agissements et les pensées des individus. Selon plusieurs études scientifiques, l'émerveillement que provoquent ces moments fugaces pourrait renforcer le comportement social positif, 1. Améliorer les interactions, 2. En plus de rendre les gens plus patients, moins matérialistes et mieux disposés à aider les autres, 3. Le sentiment de communion qu'ont éprouvé des milliers de personnes en assistant à l'éclipse solaire totale en avril 2024 en est un bon exemple. Sommeil réparateur. Dormir est un besoin essentiel. Malheureusement, plusieurs peinent à trouver le sommeil une fois le soir venu. Le cycle d'éveil-sommeil d'un individu repose notamment sur les signaux émis par son horloge biologique et sur la fluctuation de la lumière ambiante. Ainsi, regarder un coucher de soleil pourrait influencer le rythme circadien et favoriser le sommeil. Autre point intéressant, l'observation du crépuscule permettrait de ralentir le rythme cardiaque et de diminuer la tension artérielle. Il y a, dans le lever et le coucher du soleil, des rayons de bonheur, écrivait Jean Gastaldi, auteur de « Le petit livre du bonheur ». Bonne humeur. Par sa beauté, un coucher de soleil est capable d'apaiser l'esprit momentanément. D'après plusieurs chercheurs, regarder l'astre lumineux s'éteindre chaque jour pourrait renforcer le bien-être émotionnel, réduire le niveau de stress, de même qu'améliorer l'humeur et la concentration. Les études montrent d'ailleurs que le contact avec la nature aide les gens à mieux gérer les symptômes anxieux et dépressifs. Ce n'est pas un hasard si plusieurs médecins prescrivent désormais à leurs patients des ordonnances de nature. Évidemment, et si vous voulez profiter des bienfaits du coucher de soleil, assurez-vous de laisser derrière vous toute distraction inutile et de vous ancrer dans le moment présent pour apprécier pleinement le spectacle dans le ciel. C'est un rendez-vous? C'était Les couchers de soleil, un remède naturel. Un texte commandité, paru le 12 mai 2025 dans La Presse.